France Musique.
George Sand, une femme de combat.
Un gouvernement rétrograde et oligarchique vient d'être renversé par l'héroïsme du peuple de Paris. Un gouvernement provisoire, sorti d'acclamation et d'urgence par la voix du peuple et des députés des départements dans la séance du 24 février, est investi momentanément du soin d'assurer et d'organiser la victoire nationale.
Lamartine, jésuite naïf, espèce de Lafayette qui veut être président de la République et qui en viendra à bout parce qu'il ménage toutes les idées et tous les hommes, sans croire à aucune idée et sans aimer aucun homme. Lettre de George Sand à son fils Maurice, fin avril 1848. Suite au mouvement révolutionnaire contre la monarchie de juillet, le 24 février 1848 vers midi, le roi Louis-Philippe abdique. Dès 15h, la Seconde République est proclamée par Alphonse de Lamartine, et vers 20h, un nouveau gouvernement de tendance républicaine est mis en place. Le gouvernement provisoire. Après la difficile année de 1847 et sa rupture avec le compositeur Frédéric Chopin, les difficultés du couple que forme sa fille Solange avec le sculpteur Clésinger, 1848 est à plusieurs titres une année cruciale pour George Sand. Celle que l'on nomme la Bonne Dame de Nohant vient de se mettre à l'écriture de l'histoire de ma vie. Elle s'engage corps et âme dans le mouvement révolutionnaire de 1848, puis s'en retire profondément découragée. Elle n'écrira plus de romans socialistes, comme Le Compagnon du Tour de France, Horace, Le Meunier d'Angibault ou Le Péché de Monsieur Antoine. Les échecs des journées d'insurrection populaire et ouvrière des 16 avril, 15 mai et 23 juin 1848 provoquent la ruine de ses espoirs de révolution sociale. Elle s'éloigne alors du gouvernement, qu'elle assimile à un pouvoir bourgeois. Descendante du maréchal de Saxe, fille d'un officier des armées impériales et d'une ouvrière de mode, George Sand se sent métisse sociale. Elle mettra tout son cœur à combattre l'inégalité. Propagandiste, pédagogue, elle se fond dans la liberté masculine pour défendre les valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Mais elle n'entre en politique que par effraction, en prenant soin de garder les distances qui conviennent aux femmes de son temps. L'appel à l'opinion publique est une nécessité que George Sand défend toute sa vie. Dans son Berry natal, George Sand est initié au socialisme dès la fin des années 1830. C'est auprès de son avocat Michel de Bourges et du théoricien du socialisme Pierre Leroux qu'elle se forge peu à peu une doctrine sociale, chrétienne et utopique. Il faut créer des communautés fraternelles pour dépasser les conflits de classe. Elle s'adresse aux riches et aux classes moyennes en les incitant à ouvrir leurs bras au peuple. Les relations entre ville et campagne, ouvriers et paysans, sont les thèmes récurrents de sa réflexion politique. Pour se faire entendre, elle écrit. Il faut convaincre. Il faut conquérir l'opinion publique. Il faut aussi être pédagogue. George Sand mesure le poids grandissant de la presse. Alors elle écrit de petites brochures, paroles de Blaise Bonin, à l'intention des classes moyennes, des peuples des campagnes, des paysans de son Berry qui ont peur des ouvriers de la ville. Sous forme de lettres ou de dialogues, elle tente de populariser la politique républicaine. Sa rapidité d'écriture est stupéfiante. Des romans, des feuilletons littéraires, des articles de fond. Elle développe les thèmes qui lui tiennent à cœur, à dominance sociale, économique ou politique. Le rejet et la détresse d'une simple d'esprit, d'enfanchette. L'encouragement à la propriété paysanne, dans la lettre d'un paysan de la Vallée Noire. Avec une incroyable énergie, elle lance des hebdomadaires où elle défend ses convictions, comme l'éclaireur de l'Indre en 1843. La révolution qui éclate le 22 février 1848 nourrit ses espoirs politiques. En avril, elle franchit un pas dans l'engagement politique et crée son propre journal hebdomadaire, La Cause du Peuple. Thank you. Durant 3 mois, George Sand se retrouve au cœur de la révolution de 1848 qu'elle n'a pas vue venir. Elle s'investit pleinement auprès du gouvernement et en particulier de son ami Ledru Rollin, alors ministre de l'Intérieur. Elle rédige en partie et dans l'anonymat les bulletins de la République du gouvernement provisoire. Elle tente de convaincre les campagnes de payer l'impôt républicain et de voter pour la République. Des textes qui traduisent toujours ses préoccupations. La situation du paysan devant l'impôt et la propriété, le poids de Paris et de la centralisation, l'organisation du travail, la misère des ouvriers ou des vagabonds, le socialisme et la politique. Elle participe, presque, au pouvoir. Elle est une des rares femmes du XIXe siècle à avoir osé investir la sphère publique. Mais pour George Sand, le 15 mai 1848 sonne la fin de cette aventure. À l'approche des élections à l'Assemblée constituante, George Sand est inquiète. Elle rédige son bulletin numéro 16, où elle préconise, en cas de mauvais résultats électoraux, d'en suspendre les effets. Cet appel direct à la révolte, selon ses adversaires, provoque un véritable scandale et elle décide de cesser toute collaboration avec le gouvernement. L'écrivaine engagée au service de la République était prête à réclamer une nouvelle insurrection. Elle n'a pas réussi à faire triompher la vérité sociale. Alors, elle se retire à Nohant, le 17 mai, dans la soirée. Dans cette maison qui abrite tant de souvenirs. Les soirées d'été, Frédéric Chopin au piano. On sortait l'instrument sur la terrasse, la note bleue jaillissait. Il composait dans la chambre d'à côté et elle écrivait « Ça marre au diable » en 3 jours, pour lui. Comme elle aimait les conversations animées autour de la table des dîners, quand Franz Liszt et Eugène Delacroix leur rendaient visite, elle entend encore la voix du peintre, acerbe peut-être, mais quelle superbe. Et ce petit portrait qu'il réalise d'elle en 1834. Elle était si meurtrie ce jour-là par sa rupture avec Alfred de Musset. Elle s'était habillée en homme. Entre George Sand et Eugène Delacroix, une amitié profonde, vive, nourrie de discussions, de désaccords aussi. Et quelle passion pour Shakespeare et Byron. Et puis l'Espagne. Tous deux partageaient cette fascination pour ses couleurs embrasées et sa puissance rude, sèche. Que d'heures passées ici, à Nohant. Mais aujourd'hui, la musique n'est plus là. 10 ans d'amour avec Frédéric Chopin se sont brisés il y a 2 ans. Alors elle écrit à Pauline Viardot, sa tendre amie et cantatrice. Il y a si longtemps que je n'ai entendu de la vraie musique que j'en rêve et que je crois en entendre. Comment ferais-je pour aller vous demander l'aumône d'un peu de ce bonheur? Le 1er juin 1848, elle reprend l'histoire de ma vie. Elle ne parlera plus de cet épisode. Elle devient alors une médiatrice, un écrivain témoin. C'est une posture qui lui convient et qu'elle revendique en tant que femme. Incomprise, critiquée, sans doute. Mais quelle hardiesse dans ses actions, dans sa liberté d'aimer, de penser, d'écrire. Cette volonté de s'affranchir des codes et de dire « Entre l'homme et la femme, il y a égalité et non point similitude. »
À réécouter sur francemusique.fr.